et un beau.
Mais vous êtes fous!
Vous écoutez les entonnoirs!
Vous écoutez
les entonnoirs!
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici! C'est évident!
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est un fou! C'est pas bien normal! Il n'est pas comme nous!
Les anormaux, quoi! Les anormaux! Les entonnoirs!
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal! J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais.
Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était dingo, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions. Avec tout ça, il y a
la Bonjour, bienvenue à l'émission 351 des Entonnoirs, chers auditeurs, chères auditrices. Alors aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière.
Ouais, éthique
et toc. Hein.
Effectivement, ce sera surtout axé sur l'enregistrement qui a eu lieu le 26 mai à l'École supérieure de journalisme, dans le cadre d'Éthique et Toc, qui est la donc, chronique éthique des Entonnoirs. Puisque existe un partenariat avec la Fédération de recherche en santé mentale et leur espace éthique depuis maintenant, on va dire, 2 ans. Et là, justement, l'objet du sujet à traiter, qui a été traité le 26 mai, concernait justement la violence d'un apprentissage, devenir soignant. Donc nous avons rencontré... essentiellement 2 personnes qui ont accepté d'être interviewées avant justement leur conférence, qui est d'abord le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, qui est interne en psychiatrie, et également nous avons interviewé le docteur Karine Parent, qui est médecin en soins palliatifs au centre hospitalier de Bourdin. Alors le sujet effectivement était pas aussi pointu que d'habitude, très concret, sur justement toute la problématique autour de l'étudiant, dans son parcours, et tout ce que peut vivre et subir, ou faire subir, avec, dans cette relation qu'avec le patient, l'interne ou le futur médecin, relayé effectivement par des médecins qui sont en exercice et qui réfléchissent sur ce vécu, qui peut être maltraitant, voire gênant, voire plus grave, puisqu'on a évoqué le suicide de médecins qui reste un sujet vraiment tabou, notamment dans cette corporation. Alors ça touche aussi tous les soignants, parce que cette question, elle se pose pas uniquement chez les médecins, je pense qu'elle se pose aussi sur l'ensemble de la profession soignante, notamment je pense à la nôtre qui est la profession infirmière, qui pose ces réelles questions essentielles du soin et de l'apprentissage et de cette relation à l'autre.
Très bien, donc l'émission va se dérouler comme suit. Donc on va avoir d'abord cette petite introduction qui vient de se passer. Ensuite, on aura une première partie d'éthique et toc, des extraits qui ont été pris le 26. Ensuite, on aura un peu de musique. On recommencera avec une deuxième partie, un petit peu de musique, et une troisième partie, un petit peu de musique, et puis on finira par les chroniques habituelles, chroniques santé, horoscope, météo, et voilà, et on aura passé une bonne émission.
Alors donc, on va peut-être démarrer donc avec l'intervention, je rappelle, de Charles-Édouard Notre-Dame et de Karine Parent. Et nous étions plusieurs à l'interviewer le 26 mai. Donc c'est en 3 parties, effectivement, pour soulager
vos oreilles.
Vos oreilles, chers auditeurs.
Les entonnoirs.
Donc, monsieur Édouard, Charles-Édouard, je veux vous poser une question. Pourquoi avoir choisi ce thème, la violence d'un apprentissage?
Vous voulez dire, enfin, choisir ce thème pour cette soirée, oui. Là, ce soir,
Initialement, c'est un thème qui nous travaille beaucoup avec Karine. C'est un thème à laquelle, auquel j'ai pu penser grâce à Karine. En fait, tout est, je peux le dire comme ça, enfin, personnellement pour moi, tout est né d'un certificat optionnel de soins palliatifs, d'une option soins palliatifs à la fac de médecine, où finalement, effectivement, on a traité des soins palliatifs et c'était aussi un espace de parole que Karine nous a laissé, où finalement on a fini par parler de notre expérience en stage de médecine. Et il y avait une des évaluations, l'évaluation de ce certificat optionnel, c'était un mémoire qu'il fallait faire, où si je me souviens bien, les consignes étaient plus ou moins, il fallait que ça ait trait de plus ou moins loin à l'éthique et les soins palliatifs, et surtout que ce soit, oui.
Donc la consigne, c'était que les étudiants allaient avoir l'occasion de travailler lors de cette évaluation une question qui les intéressait. La consigne, c'était n'importe laquelle, pourvu que ce soit celle qui vous intéresse, à condition que ça ait rapport avec ce qu'on a traité, évidemment, pendant l'année. Donc, puisque c'était un certificat optionnel de soins palliatifs, le champ était large, puisqu'il touchait à la mort, à la souffrance, à la perte, à la vulnérabilité, et à toute une, énormément de choses qui peuvent impacter le soin et l'étudiant quand il doit travailler ces dimensions et rencontrer ces dimensions-là.
Merci beaucoup pour la précision. Du coup. Et du coup, c'était très nouveau pour nous, étudiants, et ça a été très nouveau pour moi. Et je me souviens qu'une des consignes, c'est que ça devait être aussi écrit à la première personne du singulier. Et ça, c'était très, très important parce que c'est la première fois où en médecine, on nous demandait, déjà on nous autorisait, en plus on nous demandait d'écrire à la première personne du singulier, à dire je. Et j'ai commencé avec je savais d'emblée sur quoi je voulais travailler, parce que c'était des expériences de stage qui me travaillaient depuis longtemps. Et j'ai commencé, ça a été difficile, et en fait au fur et à mesure que j'ai écrit, c'était complètement libérateur, à pouvoir parler d'énormément de choses que j'avais, dont je me souvenais même pas. Et en fait au fur et à mesure que j'écrivais, je parlais d'expériences dont je me souvenais pas qui revenaient à cette occasion-là. Et finalement, ça a été un tel point que j'ai largement dépassé le nombre de pages qui étaient autorisées par Karine. Je lui ai demandé à pouvoir faire un supplément, parce que il fallait que ça sorte à ce moment-là. Et à partir de là, ça a permis de servir de point d'origine à toute une réflexion à laquelle Karine nous a accompagnés sur qu'est-ce qu'il peut y avoir de violent dans les études de médecine et dans les études de soins de manière générale, comment se raccrocher ou comment renouer avec sa subjectivité, avec sa propre expérience, et comment, et ça c'est très important, comment accorder une attention vraie à la parole de l'étudiant et à son expérience et à son vécu. D'où cette réflexion. En fait, dans le cheminement de cette réflexion, on en arrive à cette soirée sur devenir soignant, la violence d'un apprentissage.
Est-ce que, parce que vous avez évoqué un écrit assez dense, est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement par rapport aux exemples que vous auriez pu citer pour l'auditeur, pour qu'il puisse un peu mieux comprendre ce qu'on entend par cette violence qu'on peut vivre pendant son apprentissage, pendant les études?
Quand la première fois que j'ai donné cette consigne, qu'avec l'équipe enseignante on a donné cette consigne, quand je me suis retrouvée le premier soir avec la première pile des écrits, j'étais très impatiente de voir sur quoi les étudiants avaient choisi de travailler. Et en fait, ma curiosité, elle s'est transformée vraiment en surprise et petit à petit en saisissement, parce que ce qui sortait de là, c'était vraiment des choses d'une violence telle que j'ai eu la moitié des écrits, au bout de la moitié, j'ai pas pu continuer. Et en fait, de quoi il s'agissait ? Il s'agissait d'étudiants qui racontaient qu'ils avaient été donc confrontés à la souffrance, à la mort, à aussi toute une quantité de choses qui sont interdites aux communs des mortels, aux gens qui ne sont pas soignants, et qui sont par exemple être confrontés à la nudité, au fait de déshabiller les gens, le fait de pouvoir toucher les parties les plus intimes de leur corps, le fait de devoir percer la peau pour faire des diagnostics ou des thérapeutiques. Et donc en travaillant, moi j'ai aussi appris beaucoup, hein, mais c'est en lisant ses mémoires que c'était tellement fort ce qu'il vivait que on a vraiment eu besoin de creuser pour comprendre ce qui faisait ça. Et en particulier le fait de tout ce qui est absolument nécessaire quand on devient soignant, c'est-à-dire de pouvoir percer la peau, de pouvoir dans certains contextes attacher les gens, de pouvoir toucher les espaces les plus intimes de leur corps. Ça, c'est des choses qui sont interdites aux gens qui ne sont pas soignants. Et donc, les soignants transgressent ces interdits-là. C'est une transgression qui est nécessaire, qui fait vraiment partie de la condition soignante, mais c'est pas parce qu'elle est nécessaire et qu'elle est indispensable qu'elle est anodine. Et apprendre à faire ça, c'est pas facile du tout. Et c'est ça qu'on a travaillé avec les étudiants.
Bon, je sais que l'année n'est pas finie, mais avez-vous tiré des conclusions, par rapport à cette violence? Est-ce qu'il y a des choses à réformer? Est-ce que vous avez des idées pour réformer déjà certaines choses pour le futur, par rapport au vécu des futurs étudiants, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça nous a donné beaucoup à pouvoir proposer ce qu'on a expérimenté au sein du certificat optionnel. Donc, une des premières choses déjà, c'est de pouvoir travailler à partir des expériences des étudiants. Les étudiants, à partir de la fin de leur première année, ils sont plongés dans le bain de l'hôpital, ils sont plongés dans la vie brute de l'hôpital. Et donc chacun, à sa manière, va faire des expériences qui sont des expériences pour lesquelles ils ont beaucoup, ils peuvent apprendre beaucoup à partir de ça. Donc il faut pouvoir leur d'abord qu'ils racontent leur histoire et qu'ensuite on puissent les aider à analyser ce qui fait problème dans ce qui a fait problème dans leur histoire. Ça passe par déjà reconnaître la place des émotions qu'ils ont vécues lors de ces situations. C'est aussi reconnaître qu'un médecin, ça a des émotions, ça a des questions. C'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est pas quelqu'un qui éprouve rien. Et ensuite, il faut leur apporter des éléments de réflexion théorique qui vont leur permettre de prendre du recul par rapport à ce qu'ils subissent et qui vont pouvoir leur permettre de ne plus être prisonniers, ne plus être vulnérables au modèle de soins qu'on leur propose.
Je rajouterais un petit quelque chose, c'est une tâche qui est vraiment pas évidente parce que il suffit pas d'un espace de parole. L'espace de parole, il serait absolument nécessaire. Mais moi, je pense qu'il ne suffit pas d'un espace de parole puisque ça a déjà été fait, par exemple, à la fac de médecine. Il y a eu à un moment, je ne sais pas si ça existe encore, mais un espace qui s'appelait la pause café où le principe, c'était ça, c'était pouvoir parler des expériences. Le truc, c'est qu'aucun étudiant n'y allait, très peu d'étudiants y allaient. Et celui qui y allait, il était considéré soit explicitement, soit implicitement comme celui qui est plus faible et du coup qui a besoin d'un soutien parce qu'il est plus faible. Le problème, c'est que cette idée que l'émotion est interdite au médecin et que non seulement elle est interdite, mais ça va de soi. C'est comme ça, le médecin ne ressent pas d'émotion, ne doit pas, parce que sa main ne doit pas trembler quand il tient l'aiguille. L'idée que ça va de soi, ça s'intègre progressivement. Et du coup, finalement, l'étudiant, au fur et à mesure de son cursus, intègre cette idée qu'il n'y a pas à en parler. Ce n'est pas nécessaire, c'est comme ça. Je suis médecin, et du coup, le problème, c'est que ça finit par faire l'effet inverse. C'est-à-dire que parler du coup de ses émotions, ça devient être à la marge. Et c'est être celui qui est plus faible, c'est être celui, à la limite, qui peut revendiquer aussi, qui est perçu comme pénible parce qu'il vient pointer des choses qu'on n'aime pas pointer, ou c'est celui qui est défaillant, c'est celui qui n'est pas professionnel, c'est celui qui n'est pas compétent. Donc c'est extrêmement compliqué et ça nécessite vraiment, comme Karine le disait, c'est ça qui nous a beaucoup aidés, d'une part, une écoute authentique, vraie, c'est-à-dire requalifier le récit de l'étudiant, requalifier son témoignage, requalifier sa parole, et en même temps lui apporter des connaissances théoriques qui lui permettra de se requalifier lui-même et d'avoir effectivement cette position de décentrage par rapport à son propre vécu.
Donc voilà, après cette première partie qui a été bien, comment dire, bien édifiante, point de vue de ce qu'on a compris sur l'éthique, hein, et sur le, comment, le, la souffrance dans le soin. On va écouter une petite partie musicale. Margot ?
Jingle.
Allez, viens, viens, mais viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle.
Oui, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Donc aujourd'hui, nous allons écouter Alphaville. C'est un groupe des années 80. Donc cet album est, date de 1984. Donc c'est un bon morceau, je pense que vous allez le reconnaître. C'est quel morceau, Ben? Tu peux me l'épeler en anglais.
Forever Young.
Voilà.
Ce serait magnifique si on pouvait rester jeune.
Ah oui, ça c'est sûr.
Pour toujours.
Alors on poursuit cette interview, toujours avec le docteur Charles-Édouard Notre-Dame et le docteur Karine Parent.
Dans les soins palliatifs, on est confronté dans tout le champ palliatif à ce que j'appelle le tissu existentiel du soin, dans lequel il y a de l'émotion, mais il n'y a pas que de l'émotion. Il y a aussi tout ce qui concerne le rapport à l'existence, le rapport au sens, le rapport au fait qu'on est mortel, le rapport notre rapport à la maîtrise, au fait qu'on peut pas tout maîtriser, qu'on n'est pas tout puissant. Donc tout ça, c'est petit à petit que, à force de travailler avec les étudiants, j'ai compris que c'était vraiment l'essence même du métier de soignant. Qu'est-ce que c'est que l'essence du métier de soignant obligatoirement, quand on est soigné, qu'est-ce qu'on recherche? Mais d'abord, il y a la plainte. Ensuite, il y a le recours à l'autre, c'est-à-dire qu'on va aller voir quelqu'un pour nous aider, parce qu'on espère qu'il peut nous aider. Ensuite, cette personne, elle va intervenir sur notre corps ou en parlant. En psychiatrie, c'est un peu différent. Moi, je n'ai pas l'expérience de la psychiatrie. Donc, intervenir sur notre corps. On va donc intervenir sur le corps de l'autre, ça n'est pas du tout anodin, ni pour celui qui intervient, ni quand c'est sur nous qu'on touche, c'est sur nous qu'on perfuse, qu'on opère, qu'on ouvre. Et ensuite, être soignant, c'est exercer une responsabilité. Je suis responsable des actes, que ce soit des actes de parole ou des actes, des gestes manuels, je suis responsable des actes que je pose face à l'autre ou sur l'autre. Et ça, beaucoup plus du champ de la réflexion éthique. Alors la réflexion éthique, elle travaille aussi la place des émotions. Et c'est petit à petit que j'ai compris que tout ça, c'était vraiment la matière originelle du métier. Donc c'est pour ça que ça concerne l'ensemble des études médicales et pas uniquement les soins palliatifs.
Juste pour deux mots sur la psychiatrie, c'est une question peut-être plus complexe, la psychiatrie, parce qu'il y a, je pense qu'il y a quand même une espèce de paradoxe avec les psychiatries. La psychiatrie, c'est vraiment, dans la représentation qu'on en a, c'est effectivement le domaine des émotions, le domaine où on s'intéresse aux émotions. Mais je pense que la psychiatrie n'est pas du tout à l'abri d'une technicité qui va venir effacer cette sensibilité aux émotions. Il y a différentes manières d'avoir recours aux émotions, d'étudier les émotions. On peut tout à fait étudier les émotions comme seulement un signe ou un symptôme et que cette émotion finalement ne serve qu'à faire un diagnostic. Et du coup, il y a un côté très instrumental à ça, un côté très instrumental à l'examen de l'autre. Or, on ne parle pas beaucoup en psychiatrie, je pense qu'on en parle, mais on n'en parle pas beaucoup, du fait que ce n'est pas anodin, comme ce n'est pas anodin de transpercer le corps de l'autre avec une aiguille, ce n'est pas anodin de questionner l'autre sur sa vie, sur sa sexualité, sur est-ce qu'il a des idées suicidaires, et que non seulement c'est pas anodin de le faire pour la personne, mais en plus c'est pas anodin pour le médecin ou le soignant qui le fait, ce n'est pas anodin non plus. Et ça peut faire appel à des choses qui sont compliquées pour soi aussi. Et ce genre d'émotions, enfin, quand ça donne des émotions, ce genre d'émotions, on en parle finalement assez peu. On parle beaucoup de l'émotion d'un point de vue un peu instrumental, et peu de là, dans cette situation-là, ça m'a fait peur, par exemple. Dans cette situation-là, j'ai eu peur. Et c'est compliqué, ça se fait, hein, mais c'est compliqué en psychiatrie de dire, quand on est psychiatre, on dit de dire j'ai eu peur. Parce que très vite, ce sera, mais attends, tu peux pas avoir peur, tu es psychiatre, il va falloir que tu t'habitues. Hein, parce que...
Je voulais savoir, est-ce qu'un médecin peut faillir de temps en temps? Est-ce qu'il peut avoir un burn-out, un petit peu comme un coup de faiblesse? On pourrait qualifier ça d'une faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les médecins sont des êtres humains, donc par essence, ils ont des faiblesses et ils sont évidemment très aussi, au moins autant candidats que les autres à faire des burn-out, ça c'est clair. Mais non, justement, pas du tout. C'est la formation des études, la formation médicale, elle est prioritairement structurée par un référentiel qui est scientifique. Qui est vraiment, et ça va être 99,9% des études, c'est un référentiel scientifique. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle biomédical de la maladie. C'est la maladie qui est référée uniquement comme objet de science. Alors, c'est très efficace, mais ça pose problème pour la médecine parce que ça met complètement de côté sous tout ce qui est l'homme et la société. Et donc, on forme, et on les forme très bien à la fac, à être de bons scientifiques, mais on les forme pas du tout à se débrouiller avec ce qui sort du champ scientifique, déjà pour les malades. Ils apprennent en général sur le tas, sans modèle, sans garde-fou, tout ce qui est de la relation de soins. Par exemple, ne serait-ce que l'annonce des mauvaises nouvelles, ça c'est quelque chose qui est assez courant. Ben, il y a pratiquement pas d'enseignement pratique de l'annonce des mauvaises nouvelles. On va travailler avec les étudiants en leur disant « Bon, ben, et toi, qu'est-ce que ça te fait d'annoncer une mauvaise nouvelle ? Comment tu vas te débrouiller maintenant avec cette dame qui pleure, avec ce papa à qui on vient d'annoncer, qui récidive pour la troisième fois de son cancer, et puis sa femme vient d'accoucher du dernier ? Comment tu te débrouilles avec ça ?» Donc ça, on n'apprend pas ça en médecine. Et alors, a fortiori, on n'apprend pas du tout à repérer en soi-même, quels sont les premiers signes de fatigue, d'usure, d'épuisement. On n'apprend pas que c'est nécessaire de se ressourcer, on n'apprend pas que c'est nécessaire de faire des breaks. Comme on ne parle que de la science, ça veut dire que implicitement, tout ce qui sort du domaine scientifique n'a pas de raison d'être. Et donc, le mutisme là-dessus, c'est à la fois une condition et une conséquence. Et ça, le mutisme sur tout ce qui fait le tissu existentiel du soin, je veux dire. Et du coup, ce mutisme, il renforce encore le refoulement. Donc, pour répondre à votre question, oui, on est tout à fait candidat au burn-out comme les autres, et peut-être même plus que les autres, parce que les infirmières, pour elles, dans leur cursus, l'être humain fait partie de, et elles travaillent sur elles-mêmes, les aides-soignants aussi un petit peu, mais en tout cas, les médecins, pas du tout.
Juste en deux secondes, le taux de suicide chez les médecins est plus important que dans la population générale. Deux fois plus important. C'est plus important, deux fois plus important que dans la population générale.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas de... Encore une fois, peut-être, c'est tabou, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas montrer qu'on est faible, voilà, c'est garder une image comme ça, toujours au-dessus des autres, en disant qu'on est aussi fort que l'autre, parce que sinon, quelle image on donnerait à la médecine ? Est-ce que... Il n'y aurait pas une instance supérieure qui pourrait commencer à se dire « Bon, faut arrêter le carnage
?» C'est compliqué parce que ce n'est pas un interdit qui est explicite. Ce serait plus simple si c'était un interdit qui était explicite. Ne parlez pas de vos émotions. Le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui s'intègrent progressivement. On apprend, si vous voulez, on apprend un peu en négatif. On découvre quand on est jeune étudiant en médecine. Moi, quand je suis arrivé dans mon premier stage, on a un tout premier stage en fin de première année. Et le premier geste, qui est un stage infirmier, première chose que je dois faire, c'est que j'arrive dans le bureau des infirmières et on me dit, en riant, enfin les infirmières me disent en riant, bah tiens, t'iras faire la toilette de... Je pense pas qu'elles aient dit madame quelque chose, je pense qu'elles aient dit de la 302 ou un truc du style. Et tu vas être dans le bain. Et le bain, en l'occurrence, c'était que cette personne avait une diarrhée très forte et que voilà, c'était mon initiation aux soins. Et il fallait pas en parler. C'est-à-dire que j'ai bien compris que le lot du soignant, c'était de vivre ça et de pas avoir à en parler parce que c'est comme ça. Parce que quand on est soignant, on doit pas parler de ça. Et à force de vivre ce genre d'expérience, et il y en a énormément, on finit alors c'est deux possibilités. Soit on se dit mais mince, moi je vis ça, comment je fais ? Moi, c'est difficile pour moi. Alors deux possibilités, soit j'abandonne et je me dis mais je peux pas être médecin, j'en suis pas capable de me couper de mes émotions comme ça. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, on finit par se conformer à ça et se dire ah bon d'accord, bon bah alors je vais faire comme si mes émotions n'existaient pas. Je vais faire comme si mon vécu n'existait pas. Le problème, c'est qu'en faisant comme si son propre vécu n'existe pas, on fait aussi comme si le vécu de l'autre n'existait pas, parce que c'est lié, c'est intimement lié. Et donc finalement, on finit par intégrer ça. Et une fois qu'on a parfaitement intégré ça, on voit plus l'intérêt d'en parler. Et effectivement, il y a cet interdit-là. Mais c'est un interdit qui est intégré, qu'on a au plus profond. C'est-à-dire que ça vient même plus à l'idée de se dire « ah ben quand même, en fait, c'est pas si évident que ça, en réalité. Et du coup, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus complexe. Et je pense que s'il devait y avoir une instance supérieure, c'est très tôt qu'il faudrait intervenir. L'essentiel, c'est dès les premières années de médecine. Déjà, de comprendre dès les premières années de médecine que faire médecine, c'est pas sauver à tout prix. Faire médecine, c'est quand on fait médecine, on doit savoir aussi qu'on peut mourir, qu'il est possible de mourir, et que ça fait partie du soin. C'est aussi d'apprendre que être soignant, c'est pas seulement traiter, et que régulièrement on me dit, et surtout en psychiatrie, ça marche aussi. Hein, en psychiatrie, on me dit régulièrement, oui, mais tu fais la psychiatrie, c'est chiant parce que on peut rien faire pour eux. C'est-à-dire que comme on peut pas les guérir, c'est ce qu'on me dit, on peut pas les guérir, du coup on peut rien faire pour eux. Mais je dis au contraire, moi c'est ça qui me passionne. C'est que le soin, il n'est pas forcément dans la guérison. Le soin, il est là aussi, ou quand le traitement touche ses limites. Le soin, il est dans les limites de la médecine aussi. Et déjà, si on pouvait apprendre ça dès les premières années de médecine, avec le fait qu'il est possible de se sentir en défaut dans certaines situations, que se confronter à des expériences qui sont existentielles, c'est difficile, et qu'il faut en parler, et qu'il faut avoir un bagage théorique qui permette de réfléchir à ça, là, on aura fait un progrès.
Les entonnoirs. Alors, on va écouter Valérie Jones.
Valérie June, exactement. June. Alors, c'est un CD que Erika Schroeder m'a fait découvrir et nous a fait découvrir.
Ouais.
Et on va s'écouter un extrait de cet album qui s'appelle Pushing Against a Stone.
Continuons toujours avec nos deux invités dans le cadre de la chronique éthique et toc. Donc toujours le docteur Charles-Édouard Notre-Dame et le docteur Karine Parent.
Tous les ans, il y a un étudiant en médecine qui se suicide et on n'en parle jamais. Soit c'est à la fac, à l'État, soit c'est à la Cato, et on n'en parle jamais.
Et pourquoi, selon vous ?
C'est difficile de répondre à cette question. C'est parce que ça remet en cause tellement de choses dans le modèle de ce qu'on apprend que les étudiants sont sidérés, les enseignants sont dépassés, ne savent pas par quel bout prendre le problème. Alors bon, ben voilà, on se tait.
Tout le monde est dépassé. Enfin, en partie.
En fait, le truc, c'est que... vous disiez tout à l'heure qu'il repère cette violence dans le soin, mais le truc, c'est que justement, on repère pas la violence. On n'apprend pas à la repérer. Ça, ce serait bien qu'on puisse apprendre à repérer la violence, à me dire ça, ça m'a fait violence. Et en plus, il y a différents types de violence. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même violence de voir quelqu'un décédé sous ses yeux, ce qui est extrêmement violent pour un jeune étudiant, de voir un médecin qui fait un toucher rectal à son patient sans lui demander son avis, ça c'est extrêmement violent, ou de voir tout simplement 10 étudiants qui rentrent dans une chambre d'un patient, qui parlent de lui à la troisième personne sans le regarder, ça c'est extrêmement violent aussi. Sauf que jamais on apprend que c'est violent. Jamais on nous dit que c'est violent, ça.
Est-ce que vous avez justement réfléchi sur des dispositifs de prévention ? Puisqu'il y a un constat quand même qui est clair, c'est un des constats les plus violents que j'entends là maintenant, hein, sur le suicide notamment. Il y a d'autres violences, effectivement. Est-ce que vous avez réfléchi sur la mise en place de dispositifs de prévention ou aussi, par rapport à la formation, vous en parliez tout à l'heure, des sortes de jeux de rôle comme ça, qu'on peut mettre en place pour la préparation des futurs médecins?
Alors, en ce qui concerne la prévention des médecins installés, je sais qu'au Conseil de l'Ordre, ils se penchent sur la question parce que c'est quand même préoccupant. En ce qui concerne la formation, ça nécessiterait qu'il y ait une volonté au niveau des facultés de médecine, voire au niveau du ministère de l'Enseignement, pour développer des unités d'enseignement qui travaillent la dimension subjective de la médecine. Et ça, c'est pas gagné, parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, quasiment l'ensemble des études de médecine est référencé par le modèle scientifique. Et puis, à la fin des études de médecine, il y a un concours qui s'appelle l'examen national classant. Et finalement, les études vont un peu s'orienter prioritairement, non pas vers la formation de futurs médecins, ce qui impliquerait et qui libérerait de la place pour travailler la dimension subjective et se construire en tant qu'étudiant, parce que les étudiants, ils arrivent quand ils ont quel âge ? Ils ont 18 ans. Ils vont finir leurs études, ils en auront 28. Donc il se sera passé 10 ans pendant lesquels c'est un jeune adulte qui arrive, qui est un jeune adulte en devenir, et il va forcément se construire un peu comme je te pousse, pendant, humainement parlant, hein, aussi bien pour lui que pour les autres, dans sa relation à lui et dans sa relation aux autres, il va se construire un peu à la va comme je te pousse pendant ces 10 ans. Et pour éviter qu'il se construise à la va comme je te pousse, il faut pouvoir dégager du temps pour des unités d'enseignement par petits groupes qui soient un enseignement comme ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire travailler la place des émotions, mais pas que, mais aussi toute une réflexion, une distance critique sur le contenu des études. Et en fait, ce temps-là, il est complètement mangé par la préparation de l'examen national classant. Donc, les dispositifs de prévention au tout début des études, qui, à mes yeux, sont ceux qui sont le plus efficaces, ça ne peut commencer que par des petites initiatives ponctuelles dans certaines facs. Alors, il y a des facs qui sont vraiment beaucoup plus avancées que d'autres, hein, pour ça. Hein. Donc, ça existe. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il y a très rapidement une proportion d'étudiants que ça n'intéresse pas de travailler ces dimensions-là. Et il y en a d'autres qui, au contraire, qui pendant toutes leurs études vont être à la recherche d'un endroit où enfin ils vont pouvoir travailler ces dimensions-là.
pour citer une de ces initiatives dont Karine a parlé, il y a par exemple, à, je crois que c'est à Paris 5, une enseignante de philosophie, Céline Lefebvre, qui fait quelque chose qui est très intéressant parce qu'elle ne va pas aller frontalement, c'est difficile parce que justement les étudiants ne perçoivent pas forcément la nécessité de le faire. Et elle utilise le cinéma comme moyen de d'élaborer quelque chose et d'utiliser un médium en fait pour le pour parler de cette dimension subjective du soin, de cette dimension humaine du soin. Donc et ça marche plutôt bien, hein, voilà. Si vous voulez lire un livre qui s'appelle devenir médecin qui traite de ça justement.
Alors dans la programmation, j'ai une notion que j'arrive pas à définir. On parle de violence consubstantielle au soin. Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Ben, la violence consubstantielle aux soins, c'est la violence qu'on peut pas éviter. Par exemple, imaginons qu'on doive poser une sonde nasogastrique à un enfant de 2 ans. Hein, c'est un tuyau qu'on passe dans le nez pour qu'il aille jusque dans l'estomac. Ben, c'est clair que le geste, il va être perçu par l'enfant de façon beaucoup plus violente à l'âge de 2 ans qu'à l'âge de 10 ans, quand il sera capable de comprendre ce qui lui arrive. C'est quelque chose qu'on peut pas. Ça fait vraiment partie du soin, même si on fait ça de la manière la plus humaine possible. Il y aura un vécu de violence qui sera irréductible, qu'on pourra pas enlever. On pourra pas gommer que pour un gamin de 2 ans, se faire enfoncer un tuyau dans le nez, c'est quelque chose d'insupportable. Donc c'est un des éléments de réponse. Et puis ce qui est consubstantiel, ça veut dire donc qui appartient vraiment, qui fait partie de la substance du soin, c'est par exemple le fait d'être confronté à la maladie grave, quand on est touché soi-même par la maladie grave, que ce soit si c'est moi qui tombe malade ou si c'est ma mère qui tombe malade, mes enfants, mon mari, c'est quelque chose qui fait partie des expériences dures de la vie. Donc c'est ça aussi qu'on entend par violence consubstantielle aux soins, il y a le vécu, tout ce que j'appelle le côté existentiel du soin, puis ensuite il y a ce qui est lié à la technique, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les violences, enfin tout à l'heure je parlais de la transgression responsable, du fait que on doit apprendre à transgresser de façon responsable. On doit apprendre à dévêtir les gens de façon humaine, à les interroger de façon humaine et pas de façon intrusive. On doit, voilà. Et à côté de ça, parfois, quand on est étudiant, on est témoin de situations où c'est le pouvoir que confère la relation de soins aux soignants, eh bien, il en abuse envers le malade. Par exemple, je me souviens d'une patiente qui était endormie au bloc opératoire et d'un chirurgien qui tenait des propos très méprisants sur l'aspect physique de cette patiente qui était endormie, par exemple. Ben c'est de l'abus de pouvoir sur le patient. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour l'étudiant. Donc voilà, il y a ces trois sortes-là, ce qu'on appelle la violence consubstantielle aux soins, je dirais, c'est ces trois catégories-là. C'est un, ce qui fait partie de la dureté de la vie, globalement, les gens, surtout en Occident, où on n'est plus du tout familier avec la mort, ben, mourir, c'est déjà ça fait violence aux gens. Ça, ils n'ont pas envie. tomber malade non plus. Enfin, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la violence. La première partie, c'est la violence existentielle. On ne peut pas l'éviter. Ça fait partie. Si on ne veut pas faire ça, ben, faut pas devenir soignant, quoi. Il faut faire autre chose. Il faut choisir un autre métier. Après, c'est le fait d'apprendre à intervenir sur le corps de l'autre. Ben, je me souviens, par exemple, pour d'une étudiante qui disait « Je suis contente d'avoir appris à intuber un malade. » Intuber, vous savez, c'est quand on met une sonde dans le nez ou dans la bouche pour descendre jusque dans les poumons. « Je suis contente d'avoir appris à intuber sur un patient qui était anesthésié, mais vivant. » Parce que parfois, pour apprendre, on apprend sur des patients décédés. Ben, ça, c'est pas marrant, c'est pas facile. Faut le vivre. Et puis après, la troisième... Et ça, c'est l'apprentissage du geste technique. Et puis la troisième partie qui est extrêmement déstructurante parce qu'elle fait perdre confiance dans le modèle, elle fait perdre confiance dans le discours soignant, elle fait perdre confiance dans celui qu'il tient et puis dans l'univers soignant. C'est ces exemples de violences qui sont constituées par les abus de pouvoir soignant sur le patient. C'est ce qu'on appelle la maltraitance ordinaire. Hein, et parfois la maltraitance pas ordinaire, quoi, la maltraitance grave. Hein, ça existe aussi, ça fait partie des choses dont on aimerait... voilà ce que c'est que les trois.
Et bien, donc on a des états d'âme, tant mieux, heureusement. On vous remercie en tout cas d'avoir pu répondre aux questions des entonnoirs. Et on vous souhaite une bonne conférence, en tout cas, puisque vous intervenez dans quelques minutes. Merci à vous.
Merci. Les entonnoirs.